Europe Soir, Christophe Lamarre.
Et l'invité d'Europe Soir, c'est toujours la même chose avec les jeux. On se promet qu'on ne se laissera pas piéger, que les comptes seront tenus et que la facture n'explosera pas. Athènes en 2004, Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio en 2016. À chaque fois, le budget s'est envolé. Tokyo n'échappe pas à cette loi et c'est un nouveau record. 15 milliards de dollars au moins. Et les jeux les plus chers de l'histoire. Bonsoir Vincent Chaudel.
Bonsoir.
Vous êtes économiste du sport et fondateur de l'Observatoire du sport business. Déjà, est-ce que l'on peut avoir votre sentiment sur ces jeux pratiquement sans spectateurs, en tout cas sans spectateurs étrangers? C'est tout de même une première dans l'histoire et c'est quand même une curieuse première.
Hein. Oui, c'est même une triste première pour les amoureux de sport, mais en même temps, je pense qu'on peut s'en réjouir pour les sportifs eux-mêmes, parce que dans une carrière... On n'est jamais sûr de pouvoir aller au jeu ou de pouvoir y retourner. Et si ces jeux n'avaient pas existé, même avec un an de décalage, pour certains, le rêve olympique aurait complètement été perdu. Et puis, c'est tout le mouvement sportif qui a failli, qui a vacillé. Parce que si ces jeux ne s'étaient pas produits, qu'en serait-il des contrats avec les médias et les sponsors? Et toute la pyramide, parce que derrière le CIO, il y a un mécanisme de redistribution et puis d'exposition. Il y a des sports que l'on ne voit quasiment pas médiatiquement pendant 4 ans et qui auraient eu un trou, qui serait resté dans un tunnel pendant 8 ans. C'est le monde avec le Covid, les jeux avec le Covid, c'est moins bien que sans, bien évidemment. Mais ça reste des jeux quand même. On va avoir des frissons pour nos athlètes.
Il y a eu à un moment donné la rumeur ou peut-être l'idée qu'on pouvait à nouveau décaler les Jeux de Tokyo d'un an. Est-ce que, selon vous, cela aurait été souhaitable ou réalisable en tout cas?
Souhaitable et réalisable, je ne pense pas. Déjà, le report d'un an, c'est déjà en soi un petit miracle, entre guillemets, parce que les calendriers sportifs sont tellement imbriqués les uns dans les autres qu'on voit bien les difficultés. Par exemple, les années impaires sont des années désormais de Coupe du Monde féminine de football. Et décaler de 2 ans, c'est se mettre une Coupe du Monde en face de Jeux Olympiques, alors que d'habitude, ce sont les Euros qui sont en face des Jeux Olympiques. Et donc, on voit bien que tous les calendriers sont comme ça imbriqués les uns dans les autres. Les redécaler déjà d'un an, c'était compliqué, mais les décaler de 2 ans, ça aurait été une gageure. Et puis après, soyons un peu égoïstes 30 secondes, Paris, les prochains Jeux, c'est Paris 2024. Il y a déjà un problème pour les sponsors de Paris 2024, c'est que normalement, ils ont, en tant que sponsors de l'Olympique suivante, ils ont 4 ans pour exploiter les anneaux, et là, ils en ont déjà que 3.
Ça change beaucoup de choses, ça, Vincent Chaudel, parce que j'allais dire pour le grand public, ça ne parle pas forcément. On se dit après tout, un an de plus, un an de moins, qu'est-ce que ça peut leur faire? Non, ça change beaucoup de choses, ça.
Ouais, quand on est sur des tickets de 50 ou 100 millions d'euros par an, oui, ça change beaucoup de choses.
Je veux bien le croire.
Et surtout, si vous devez payer pour ne pas pouvoir exploiter ces anneaux, oui, ça pose un vrai problème. Donc, ça pose un problème pour le sponsor qui, mécaniquement, va demander une remise, une ristourne. Et ça pose un problème, du coup, pour l'organisateur qui voit son budget être impacté. Si les JO de Tokyo seront malheureusement dans l'histoire les JO les plus chers, c'est en grande partie parce que il y a eu le report. Donc, ça veut dire que quand vous organisez des Jeux Olympiques, vous employez beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes sur la dernière année. Et donc là, le report s'est décidé en mars 2020 pour des JO qui devaient commencer en juillet. C'est-à-dire que l'organisation de Tokyo 2020 était déjà quasiment à pleine puissance. Et là, vous faites quoi? Vous renvoyez tout le monde à la maison ou vous gardez tout le monde? Et si vous gardez tout le monde, vous avez un surcoût, bien évidemment. Et puis, vous avez un problème avec vos sponsors. Et en plus, là, pour la triple peine, vous devez vous passer de touristes, de spectateurs, donc de touristes. Juste à titre indicatif, en 2010, il y avait à peu près 9 millions de touristes à Tokyo. En 2019, il y avait 32 millions de touristes. Donc, on voit bien la montée de en puissance du tourisme grâce à la Coupe du Monde de rugby 2017 et grâce au JO 2020 et la, la dynamique enclenchée par rapport à ça.
Je...
Malheureusement, en 2020,
Ouais.
c'était 4 millions de touristes. Ils ont perdu 28 millions de touristes en un an.
Et justement, des jeux sans spectateurs étrangers, donc sans touristes, en grande partie. Tokyo, placé en état d'urgence sanitaire, a même restreint les libertés d'aller et venir pour ses propres habitants. Hein. Là, on parle pour les Tokyoïdes. Ce n'est pas très bon pour le business, ça, Vincent Chaudel, non?
Alors, ce n'est pas très bon pour le business, ça c'est clair, évidemment. C'est ouvrez votre supermarché et interdisez aux gens de rentrer, ça va vous poser un problème. Mais au-delà de ça, ce n'est pas très bon pour l'image du mouvement olympique. Déjà que aller chercher des villes candidates devenait compliqué. Hein, gardons à l'esprit que Paris était tout seul et que Los Angeles
Ah ben,
était tout seul, puisque
Rome, pardon de vous
ça ne
couper,
ferait
Vincent
partie que de ça.
Chaudel, mais Rome a refusé et Hambourg a refusé hein, via un référendum.
Et Rome a refusé, Hambourg a refusé, Boston a refusé
C'est vrai
également.
aussi, oui.
Et donc, évidemment, c'est cela. Et donc, on sait déjà qu'aujourd'hui, il y a quelque part une malédiction de la ville gagnante. C'est-à-dire, son budget est en général multiplié par un et demi ou deux. Mais si en plus, on se met les populations à dos et qu'en plus, on va vers un gouffre financier parce qu'on n'a plus de recettes, oui, ça pose un vrai problème d'image. Mais moi, je crois surtout que des Jeux Olympiques ne sont pas nécessairement là pour gagner de l'argent, mais pour gagner du temps. Si je prends le cas de Paris 2024, on va accélérer la transformation du Grand Paris grâce aux JO. Sans les JO, on aurait fait ces transformations, mais peut-être en 2035 ou 2040. Donc on va gagner du temps grâce à cela. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir.
On va revenir sur le Grand Paris, mais restons à Tokyo quelques instants. Les sponsors locaux qui avaient réussi à réunir 3 milliards de dollars, hein, je parle sous bon contrôle, en un temps record, est-ce qu'ils ne sont pas les grands perdants de ces jeux Covid?
En fait, Tokyo, le Japon d'une façon générale, est le grand perdant de ces jeux Covid, évidemment, et ils le font pour sauver le soldat CIO, quelque part. Parce que l'annulation pure et simple aurait certainement coûté quelque chose comme 34 milliards de dollars au Japon. Et là, la facture est quand même de 18. C'est énorme. Mais quelque part, les sponsors japonais enfin, on a une culture de l'orgueil et de la fierté au Japon, et je pense que c'est entre guillemets ce qui sauve ces jeux, parce que les sponsors japonais sont restés à côté et engagés autour de l'organisation de ces jeux. Et tant mieux pour ces jeux qui, qu'un cas, existent. Et encore une fois, la fête, du moins l'engagement des sportifs va être à la hauteur, et on va vivre une quinzaine, j'espère, fabuleuse, en espérant qu'on ait beaucoup de médailles françaises.
Vincent Chaudel, comment... Oui, bien sûr qu'on espère avoir beaucoup de médailles françaises, ça nous amènera un petit coin de ciel bleu chez nous. Vincent Chaudel, comment expliquez-vous, vous avez parlé très justement de la malédiction de la ville gagnante, comment expliquez-vous que la facture des Jeux s'envole systématiquement et dépasse à chaque fois les bornes qui étaient fixées au départ?
Alors, je dirais qu'il y a deux contextes. Il y a le premier contexte, avant, on était plutôt dans un poker menteur où on présentait en candidature des budgets minimisés pour expliquer au CIO qu'on ne serait pas pharaonique et donc on gagnait les jeux. Puis après, on était face à la réalité et ça augmentait. Je crois qu'aujourd'hui, le problème des jeux, si je prends le cas de Paris 2024, le budget, il est a priori maîtrisé, maîtrisable. Sauf que désormais, on va avoir, on le sait depuis Londres 2012, des sujets de sécurité très importants. On a peur que ces événements servent de plateforme pour tout un tas de revendications, y compris des revendications terroristes. Donc c'est un vrai sujet, et donc là-dessus, les coûts de sécurité ne vont cesser d'augmenter et sont difficilement anticipables. Et puis là, avec Tokyo, on se rend compte qu'il y a un sujet aussi de sanitaire qui va mécaniquement, par rapport à Paris 2024, avoir un impact à la hausse au niveau du budget. Mais si on regarde un budget, il y a deux parts de budget. Il y a la part liée à la compétition elle-même, aux infrastructures. Et là-dessus, le budget de Paris 2024 va être maîtrisé, puisqu'il n'y a quasiment pas, hormis la piscine, d'équipements à construire. Donc il y aura soit des équipements existants, soit des équipements temporaires. Et tout cela est financé en partie par les sponsors, les droits télé et les redistributions du CIO. Et puis il y a la partie village olympique, infrastructures de transport et autres, qui, ce que j'évoquais tout à l'heure, sont de nature à faire gagner du temps à la collectivité. Et c'est cela qui peut faire envoler les budgets. Si on prend l'exemple de Sotchi, qui était une région à désenclaver pour la Russie, oui, il y a eu des surcoûts, mais avec une logique moyen-long terme qui peut se justifier.
Merci Vincent Chaudel. Je rappelle que vous êtes économiste du sport et fondateur de l'Observatoire du sport business. Merci et à bientôt sur
Merci,
Europe 1.
à bientôt.